Leçon 10, semaine du 28 mai au 3 juin. Jacob, Israël. Samedi après-midi, verset à mémoriser. Il reprit : On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Genèse 32, au verset 28. Je reprends juste la référence. Genèse 32 au verset 28. La saga familiale de Jacob continue, le bon comme le mauvais. Pourtant, dans tout cela, la main de Dieu et sa fidélité aux promesses de l'Alliance apparaissent. Cette semaine, nous suivons un peu plus Jacob, maintenant qu'il a quitté Laban et que sur le chemin de retour, il doit affronter Ésaü, victime de la traîtrise de son frère. Que va-t-il faire à présent, lui à qui il a fait tant de mal? Heureusement pour Jacob, au cœur de la crainte de ce qui allait arriver, le Seigneur, Dieu de ses pères, lui apparut de nouveau lors d'un incident qui préfigurait ce qu'on appellerait par la suite le temps de détresse de Jacob. Voir Jérémie 30, au verset 5 à 7. Et cette nuit-là, Jacob, le supplanteur, devint Israël. Un nouveau nom pour un nouveau départ. Départ qui conduirait en définitive à la création de toute une nation qui porterait son nom. En d'autres termes, malgré tout ce qui arrive, l'histoire des patriarches et de leurs familles est racontée dans la Bible afin de nous montrer que Dieu est fidèle, qu'il accomplit ce qu'il a promis et qu'il le fera malgré tout ce que son peuple semble parfois faire pour empêcher que ses promesses se concrétisent. Dimanche 29 mai, lutte avec Dieu. Après avoir quitté Laban, Jacob vit bientôt une nouvelle expérience avec Dieu. Sachant que son frère Ésaü vient avec un peu plus de 400 hommes, Genèse 32 au verset 7, Jacob prie le Seigneur avec ferveur, tout en reconnaissant qu'il est trop petit pour toute la fidélité et la loyauté qu'il a montrée envers lui. Genèse 32, verset 11. Clairement, Jacob comprenait mieux ce que c'était la grâce. Et comment le Seigneur a-t-il répondu? Lisez Genèse 32, verset 22 à 31 et Osée 12, au verset 3 et 4. Quelle est la portée spirituelle de cette histoire étonnante? Jacob est bouleversé. Et c'est compréhensible par ce qui arrive, et après avoir fait ce qu'il peut pour protéger sa famille, il campe pour la nuit. Il est alors attaqué par un homme. Genèse 32, verset 24. Ce terme peut avoir des connotations particulières et évoquer la présence divine. Voir Ésaïe 53, au verset 3. Daniel l'a utilisé pour parler du prêtre Céleste Michel dans Daniel 10, au verset 5. C'est également le mot employé par Josué pour décrire le chef de l'armée du Seigneur qui était le Seigneur Adonai, Yahvé, en personne, voir Josué 5 au verset 13 à 15. En effet, dans ce combat, il a dû devenir évident pour Jacob qu'il luttait contre Dieu lui-même, comme l'indiquent ses paroles. « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, verset 26. Cependant, le fait qu'il s'accroche à Dieu et qu'il refuse de le lâcher révèle également qu'il souhaite ardemment être pardonné et être en règle avec son Seigneur. Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui a fait obtenir le droit d'aînesse. Faute d'avoir eu confiance en Dieu, il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et à sa manière. Ellen White, patriarche et prophète, page 176. Son changement de nom fut la preuve qu'il avait été pardonné. Il passait d'un nom qui rappelait son péché à un nom qui commémorait sa victoire. « On ne te nommera plus Jacob le supplanteur, dit l'ange, mais Israël. » Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Genèse 32 au verset 28. Quelle est votre expérience en matière de lutte avec Dieu. Que signifie lutter avec Dieu et pourquoi est-il important de vivre parfois ce genre d'expérience? Lundi 30 mai, les frères se retrouvent. Depuis Péniel, face à Dieu, Genèse 32, verset 30, le lieu où il a eu cette expérience avec Dieu, Jacob avance à la rencontre de son frère. Après 20 années de séparation, Jacob le voit arriver avec 400 hommes. Genèse 33, verset 1. Jacob s'inquiète, alors il se prépare et prépare sa famille à toute éventualité. Lisez Genèse 33. Quel rapport y a-t-il entre l'expérience de Jacob quand il a vu la face de Dieu à Péniel et l'expérience de Jacob quand il a vu la face de son frère? Qu'implique ce rapport pour notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères, quels qu'ils soient? Jacob s'incline 7 fois devant son frère. Genèse 33, verset 3. Qu'il appelle à plusieurs reprises mon Seigneur. Genèse 33, verset 8, verset 13 et verset 15. Et s'est défini comme son serviteur. Genèse 33, verset 5. Genèse 32, verset 4, 18 et 20. Élément important, les 7 références de Jacob font écho aux bénédictions de son père. Genèse 27, verset 27 à 29. De plus, quand il s'incline, il inverse précisément la bénédiction de son père à propos des nations qui se prosterneront devant toi. Genèse 27 au verset 29. C'est comme si Jacob avait l'intention de payer sa dette envers son frère et de rendre la bénédiction qu'il lui a volée. Voir Genèse 33 au verset 11. Quand Ésaü vit son frère, contre toute attente, il courut vers Jacob et au lieu de le tuer, il l'embrassa et ils se mirent à pleurer. Genèse 33, verset 4. Plus tard, Jacob fit ce commentaire à Ésaü. J'ai vu ta face comme si j'ai vu la face de Dieu. Genèse 33, verset 10, selon la version Darby. La raison de cette déclaration extraordinaire de Jacob tient au fait qu'il comprend qu'Ésaü lui a pardonné. Le verbe hébreu ratsa, bien accueilli, voir Genèse 33, verset 10, selon la version de la Colombe, est un thème théologique qui renvoie à un sacrifice qui est agréé, accepté par Dieu, ce qui implique alors le pardon divin. Lévitique 22, verset 7, Amos 5, verset 22. L'expérience que Jacob avait eue du pardon de Dieu à Péniel, où il avait vu sa face, se répète maintenant dans son expérience du pardon de son frère qu'il identifie comme s'il voyait la face de Dieu. Jacob vit un deuxième Péniel, le premier ayant préparé le deuxième. Jacob a été pardonné par Dieu et par son propre frère. Il devait véritablement comprendre encore, plus qu'avant, ce que signifiait la grâce. Qu'avez-vous appris de la grâce sur la façon dont d'autres personnes, en dehors du Seigneur, vous ont pardonné? Mardi 31 mai. Le viol de Dina. Maintenant que Jacob s'est réconcilié avec son frère, il veut s'installer dans le pays de Canaan en paix. Le mot « Shalem », saint et sauf, Genèse 33, verset 18, qui vient du mot « Shalom », paix, caractérise pour la première fois son voyage. Après avoir acheté un terrain aux habitants, Genèse 33, verset 19, il y dresse un hôtel et manifeste sa foi et sa prise de conscience de sa dépendance du Seigneur. Pour chacun des sacrifices offerts, il y avait un acte d'adoration. Pourtant, pour la première fois dans sa vie, Jacob Israël est exposé aux difficultés de l'installation dans le pays. Comme Jacob à Guérar avec Abimélech, Genèse 26 au verset 1 à 33, Jacob tente de trouver un arrangement avec les Cananéens. Lisez Genèse 34. Qu'est-il arrivé qui a contrarié ses projets d'une existence paisible? Cette histoire sordide met en lumière l'ambiguïté des personnages et de leurs actes. Sichem, qui viole Dina, est également décrit comme sincère et amoureux d'elle et comme quelqu'un qui veut tenter de se faire pardonner. Il est même prêt à subir le rite de l'alliance, la circoncision. Pendant ce temps-là, Siméon et Lévi, qui se présentent comme les défenseurs de Dieu et de ses commandements et qui résistent au mariage mixte avec les Cananéens, voire Lévitique 19 au verset 29, ont recours au mensonge et à la tromperie, Genèse 34 au verset 12, et sont prêts à tuer et à piller, Genèse 34 verset 25 à 27. Leurs actes étaient non seulement répréhensibles, pourquoi ne pas punir le seul homme qui l'avait commis, mais ils risquaient potentiellement d'entraîner davantage de problèmes encore. Quant à Jacob, il n'y a que la paix qui l'intéresse. Quand on lui rapporte le viol de sa fille, il ne dit rien. Genèse 34, verset 5. Cependant, après avoir entendu ce que ses fils ont fait, il les réprimande ouvertement à cause de ce qui pourrait suivre. « Vous avez attiré le malheur sur moi en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Pérésites. Je n'ai, moi, qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils m'attaqueront et je disparaîtrai, moi et ma maison. » Genèse 34, verset 30. Ces récits nous présentent une tromperie omniprésente, mais aussi des actes de bonté et de grâce. Qu'est-ce que cela nous indique sur la nature humaine? Mercredi 1er juin. L'idolâtrie prédomine. Lisez Genèse 34, verset 30 à 35, verset 15. Quelle leçon sur la véritable adoration peut-on tirer de ce qui est arrivé? Jacob se plaint que sa paix avec les Cananéens a été compromise. Genèse 34, verset 30, et réprimande ses deux fils. Genèse 34, verset 30, et juste après, Dieu exhorte Jacob à quitter Sichem et à retourner à Bethel afin de renouveler son alliance. En effet, le Seigneur lui dit qu'une fois sur place, il devra bâtir un autel. Entre-temps, juste après l'ordre de Dieu, la première chose qui nous est rapportée, c'est Jacob qui dit à son peuple de supprimer les idoles cananéens qui avaient été prises dans le butin de la ville de Sichem, ainsi que les divinités domestiques qui avaient été volées par Rachel. Genèse 31, versets 19 et 32. Tout cela est également crucial pour l'idée d'alliance avec Dieu. Ils avaient conservé ces idoles et les avaient probablement adorées malgré l'engagement de Jacob envers Dieu. Cela ne suffisait pas que Jacob quitte Sichem pour échapper à l'influence cananéenne. Jacob devait se débarrasser des idoles dans le camp même et dans le cœur de ce peuple. Le processus de repentance n'est pas un simple déplacement physique d'un lieu à un autre ou d'une église à une autre. Il doit s'agir par-dessus tout de purger l'idolâtrie de nos cœurs par la grâce de Dieu où que nous habitions, parce que nous pouvons faire des idoles à partir d'à peu près n'importe quoi. Quand Jacob obéit à Dieu et agit conformément à son commandement, Dieu finit par intervenir et la terreur de Dieu s'empare de tous les peuples environnants. Lequel n'ose attaquer Jacob? Jacob est ainsi prêt à adorer avec tous ceux qui étaient avec eux. Genèse 35 au verset 6. Ce qui indique que l'unité de la famille a été restaurée. Jacob donne à cet endroit le nom de El Bethel, en rappel de son rêve de l'échelle, un signe que le lien entre le ciel et la terre, qui avait été brisé pendant un certain temps, a désormais été restauré. Cette fois, l'accent est mis sur le Dieu de Bethel plutôt que sur le lieu lui-même. Cette note personnelle résonne encore. Quand Dieu appelle Jacob, son nom Israël, Jacob 35 au verset 10, avec la double promesse que cette bénédiction implique. La bénédiction de Jacob signifie d'abord la fertilité, la transmission de la semence messianique et la génération de nombreuses nations. Genèse 35 au verset 11, et elle renvoie ensuite à la terre promise. Genèse 35 au verset 12. De quelle manière subtile l'idolâtrie peut-elle s'immiscer dans nos cœurs et que peut-on y faire? Jeudi 2 juin. Mort de Rachel. Lisez Genèse 35 au verset 15 à 29. Quels autres malheurs Jacob dut-il affronter au sein de sa famille dysfonctionnelle? Dès que Jacob quitte Bethel, trois incidents liés marquent la dernière étape de son voyage vers la terre promise, son dernier fils voit le jour. Rachel meurt et Ruben, le premier-né qu'il a eu avec Léa, couche avec la concubine de Jacob. Bien que le texte ne dise pas pourquoi le jeune homme a fait une chose aussi malfaisante, c'était peut-être pour ternir la naissance du premier fils de Jacob et pour humilier la mémoire de Rachel. Mais nous l'ignorons. La naissance du dernier fils de Jacob est liée à Bethléem, Genèse 35 au verset 19, qui se trouve au sein de la terre promise. Cette naissance est ainsi la première concrétisation de la promesse de Dieu pour l'avenir d'Israël. La sage-femme prophétiquement s'adresse à Rachel avec les paroles mêmes que Dieu a prononcées pour rassurer Jacob. N'aie pas peur. Genèse 35 au verset 17, voire Genèse 15 au verset 1. Chose significative, Jacob change le nom que Rachel mourante avait donné à son fils pour signifier sa souffrance, Benoni, qui signifie « fils de ma douleur », en Benjamin, qui signifie « fils de ma droite », peut-être pour indiquer la direction du sud et exprimer son espérance en la terre promise et en tout ce que Dieu avait promis de faire pour son peuple après leur installation sur place. Pourtant, durant ce temps, Ruben a des relations sexuelles avec Bila, concubine de son père et servante de Rachel, Genèse 35, verset 25, Genèse 30, verset 3. Nous ne savons pas pourquoi il a commis cet acte scandaleux en dehors du fait qu'il s'agissait d'un autre exemple de dépravation humaine. Chose étonnante, Jacob ne réagit pas à cette terrible transgression. Bien qu'on lui en parle, Genèse 35, verset 22, peut-être qu'à ce stade de sa vie, Jacob fait confiance à Dieu et croit qu'il accomplira sa parole malgré le péché et le mal qui se manifeste parfois autour de lui. C'est précisément cette leçon de foi qui est sous-entendue dans la liste des 12 fils de Jacob qui deviendront les ancêtres d'Israël. Genèse 35, versets 22 à 26. Ce ne sont pas les personnes les plus aimables qui soient, comme nous le verrons. Malgré tous les problèmes, tous les dysfonctionnements, et même le mal pur et simple, comme Ruben avec Bila, la volonté de Dieu allait s'accomplir dans cette famille aussi perturbée qu'elle fut. Malgré les erreurs des humains, l'objectif suprême de Dieu s'accomplira. Imaginez ce qui arriverait si les gens coopéraient, s'ils lui obéissaient. Avec quelle facilité la volonté de Dieu pourrait-elle s'accomplir alors s'il y avait moins de souffrances, de contraintes et de retard de la part des humains. Vendredi 3 juin. Pour aller plus loin. Lisez Ellen White, La lutte nocturne, pages 173 à 179, dans Patriarches et prophètes. Cette nuit de lutte et d'angoisse préfigure l'épreuve à travers laquelle le peuple de Dieu devra passer immédiatement avant le retour de Jésus-Christ. Telle sera l'expérience du peuple de Dieu dans sa lutte finale avec les puissances du mal. Dieu éprouvera sa foi, sa persévérance et sa confiance en lui. De son côté, Satan tentera de terrifier les fidèles à la pensée que leur situation est désespérée et que leurs péchés sont si hideux pour être pardonnés. De son côté, Satan tentera de terrifier les fidèles à la pensée que leur situation est désespérée et que leurs péchés sont trop hideux pour être pardonnés. Le sentiment de leur faiblesse sera si vif que, par moments, leur espoir sombrera. En revanche, au souvenir de l'infinie miséricorde de Dieu et de leur sincère contrition, ils se réclameront des promesses faites aux pécheurs. Leurs prières ne seront pas immédiatement exaucées, mais leur foi ne faiblira point. Ils s'attacheront à Dieu de toute leur âme et répéteront avec Jacob « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». D'autre part, l'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas celui qui, entraîné sur une mauvaise voie, retourne à lui par une conversion véritable. C'est en s'abandonnant entre les mains de Dieu avec confiance que Jacob reçut ce qu'il n'avait pas obtenu par ses propres forces. L'Éternel lui apprit que la puissance et la grâce divine pouvaient seules lui communiquer la bénédiction après laquelle son âme soupirait. Il en sera de même de ceux qui vivront dans les derniers jours, lorsqu'ils seront entourés de dangers et lorsque leur âme sentira la morsure du désespoir, ils ne devront s'appuyer que sur le sacrifice expiatoire offert sur le calvaire. Nous ne pourrons rien faire de nous-mêmes. Ellen White, patriarche et prophète, page 177 à 179. À méditer, pourquoi la faiblesse de Jacob est-elle l'occasion pour Dieu de manifester sa grâce? Quel est le rapport entre l'expérience de Jacob et la déclaration de Paul? En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 10 au verset 10. Selon vous, pourquoi la Bible révèle tant de détails sordides sur la vie de nombre de ses personnages? Quelle idée peut-on en retirer? Attardez-vous un peu sur la question de l'idolâtrie? Quelles sont les idoles de notre culture, de notre civilisation? Comment nous assurer que nous n'adorons rien ni personne d'autre que le Seigneur?